Donc, ben, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, on a notre nouvelle collaboratrice dans sa première présence avec nous, Natacha Tremblay, et Jonathan Carrero-Benoît et moi-même. Bonjour Natacha, bonjour Jonathan.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis, selon les bons pouvoirs de Zoom, pour discuter de la course à la chefferie du Parti conservateur, mais aussi un petit peu d'autres choses ici et là, entourant la politique fédérale, peut-être, à la guise de vous deux. Et donc, première des choses, on va faire une petite introduction pour Natacha, quand même. Premier balado, première expérience de ton côté?
Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Fait que...
Pas de stress, écoute, on n'a pas tant, je veux dire, on n'est pas encore en prime time, là, on n'a pas 500 personnes qui nous écoutent. C'est un bon début. Écoute, je suis content de pouvoir dire qu'on fait enfin un balado à trois là-dessus, sur la course conservatrice. Ça faisait un bout qu'on cherchait quelqu'un qui était compétent là-dedans, parce que c'est quand même compliqué à trouver. Est-ce que tu voulais t'introduire ou ben tu préférais qu'on saute au sujet directement?
Ben, tu sais, je pourrais parler de mes fonctions dans cette course à la chefferie. Ben, moi, je travaille présentement sur la campagne de Peter Mackey. Je suis la coprésidente des Jeunes du Québec. Alors, c'est sûr que je suis très impliquée, j'aurais dit sur le terrain, mais c'est sûr que c'est rendu très virtuel maintenant. Mais je suis très impliquée auprès des jeunes au Québec, puis aussi un peu plus juste sur la campagne à la large au Québec. J'ai aussi été candidate avant, alors... On est quand même beaucoup de candidats du Québec à être avec l'équipe de Peter Mackey. Alors, je travaille beaucoup avec ces gens-là aussi.
Génial, ça. Et je me permets la question. C'est dans quelle circonscription que tu t'es présentée?
J'étais dans Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. C'est en Gaspésie.
Oh mon Dieu, OK, oui, tu t'es... Oh, OK, d'accord. Tu t'es pas présenté contre n'importe qui quand même, là. C'est quand même intéressant, ça, là.
Oui, bien, c'était intéressant. C'est sûr que c'était... C'était une plus grosse campagne qu'être, mettons, poteau à Montréal parce que, ben, de un, juste le territoire de ce comté-là, c'est quasiment 15 000 km².
Oui, et, ben, c'est ça.
Les candidats, tu sais, il y avait un libéral du sortant, puis on voyait aussi la montée du Bloc qui arrivait en même temps, alors c'était quand même intéressant comme coin. Alors, ouais, c'est puis j'ai eu la chance, en fait, de parler beaucoup aux médias locaux comparé à beaucoup de candidats parce que, justement, dans ces coins-là, ben les médias locaux sont très actifs puis sont très attentifs par rapport à ce qui se passe en politique fédérale, provinciale, peu importe. Eux autres, ils suivent vraiment ça de près. Alors, c'était vraiment une belle expérience.
Oh, OK. Quand même. Puis, as-tu... dans les débats comme tels... Là, je m'excuse. On fait une parenthèse quand même parce que moi, ça m'intéresse, ayant été candidat également aux élections fédérales. Dans les débats, as-tu senti qu'il, justement cette pression du Bloc québécois, pour le mentionner, est-ce que tu le sentais, tu la sentais, cette pression-là? Est-ce que ça, tu voyais que beaucoup de gens du Parti conservateur pesaient sur tes épaules, en fait, là, pour vraiment venir enrichir le débat, venir proposer des idées concrètes, un peu enrayer d'une certaine façon des controverses qu'il y aurait pu avoir alentour de M. Scheer?
Oui, bien, c'est sûr qu'avec la montée du Bloc, ça nous forçait vraiment à penser à notre positionnement nationaliste, à voir ce qu'on peut faire pour le Québec. Il fallait vraiment montrer en quoi, selon notre vision conservatrice, on pouvait former un gouvernement qui allait respecter l'autonomie des provinces, qui allait donc laisser au Québec plus de pouvoir, par exemple, que les gouvernements libéraux qui, traditionnellement, sont centralisateurs.
Non, effectivement.
Nous, notre ligne, c'était surtout on peut former un gouvernement pour s'assurer que les intérêts du Québec sont protégés, alors que le Bloc, ben, ils sont en opposition, ils vont toujours devoir négocier. Bien entendu, on n'a pas formé le gouvernement, mais c'est sûr que c'était un peu cette idée-là qui était au cœur de la défense des intérêts du Québec chez le Parti conservateur. Ouais, surtout à l'extérieur de Montréal, les conservateurs québécois sont quand même généralement très nationalistes, même s'ils ne sont pas nécessairement souverainistes.
Tu sais, moi, j'ai vraiment aimé... puis ça, je dès le début, en fait, je l'ai dit, ça a été un des points forts, je trouve, de la campagne de M. Scheer, c'est qu'il a... bon, si je ne me trompe pas, du moins, il a commencé sa campagne à Trois-Rivières. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Et bon, j'ai eu un bon sourire quand même. C'est, on a besoin de la nation québécoise. C'est quand même une phrase forte qui pour moi, ça m'a donné des frissons personnellement quand j'ai entendu M. Scheer dire ça. Et ça démontre, en fait...
Je m'excuse, j'entends, mais moi, il n'y a rien qu'Andrew Scheer pouvait dire qui me donne des frissons. Il était tellement plate.
Non, mais là-dessus, moi, je trouve au contraire qu'il y avait quand même... Il y avait au moins l'audace. Il faut y donner. Il y avait l'audace de le dire en sachant que le bloc était à côté.
Ouais, c'est
dire
sûr.
Ça à Trois-Rivières en plus, tu sais, je veux dire, c'est pas rien là, quand même.
C'est sûr, mais c'est juste le côté frisson. Moi, c'est juste, il a fait un très beau discours vers la fin de la campagne en utilisant le fameux maître chez nous puis à Québec, là, mais c'était trop peu trop tard. Mais justement, je serais curieux de t'entendre là-dessus. La fameuse campagne, Natacha, déception, tu t'attendais un peu à ça ou vous espériez quand même gagner. C'était un gouvernement qui était battable. Là. Justin Trudeau, il n'est pas arrivé là puis il était pas invincible pantoute. Moi, honnêtement, je trouvais que il y avait eu une contre-performance de la part de votre parti. Mais je sais pas de l'intérieur, comment est-ce que tu t'as fait le diagnostic? Là?
Ben, écoutez, nous, on était là pour former le prochain gouvernement. Au Québec, on avait vraiment mis beaucoup d'efforts, de ressources là-dedans pour avoir des idées qui pourraient bien vous représenter le Québec, notre autonomie, notamment le rapport d'impôt unique. Mais ça n'a pas marché, mais on avait vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans. C'est sûr que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de nationalistes au Parti conservateur. Puis notre lieutenant du Québec, Alain Reyes, il travaillait très, très fort pour être sûr que les conservateurs redevenaient une option au Québec. Ça avait bien commencé en début de campagne. On sentait qu'il y avait quand même du momentum. C'est sûr qu'après le débat de TVA, on voyait que les choses se mettaient à changer. Moi, j'étais sur le terrain. Quand je rencontrais les gens, ça parlait toujours d'avortement. On me posait la question, est-ce que vous êtes contre l'avortement? Est-ce que vous êtes contre l'avortement? Puis, tu sais, c'est bien beau avoir des candidats au Québec qui disent à l'unanimité non, mais...
Il faut que le chef soit clair.
C'est ça.
Mais vous avez un problème un peu au parti avec ça, l'avortement. C'est que les chrétiens évangéliques à l'Ouest ont beaucoup de pouvoir quand même sur le parti, il semblerait, là, de ce côté-là, parce que je me souviens, c'est M. Poilièvre, si je me trompe pas, qui était aspirant candidat à chefferie, a fait une déclaration sur l'avortement et sur le mariage gay, s'est fait mettre sur la liste noire par quelques organismes justement évangéliques, puis après ça, il a décidé qu'il laissait faire de se présenter, là.
Ouais, je vous dirais, eux autres qui ont beaucoup d'influence sur le parti, même que je dirais qu'il y a beaucoup d'organismes tiers qui sont pas nécessairement liés au parti directement, mais qui s'infiltrent, j'oserais dire. Par exemple, Right Now, la façon que les autres fonctionnent, c'est un organisme pourvu qui veut absolument qu'il y ait des lois qui viennent restreindre l'accès à l'avortement. Eux autres, la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une course à l'investiture dans un comté prenable pour le Parti conservateur, eux autres investissent massivement leurs ressources, ils mobilisent les organismes chrétiens dans cette région-là pour s'assurer que eux autres choisissent un candidat pro-vie pour gagner l'investiture dans ce comté-là, pour en devenir le député. Alors, eux autres, ils vont vraiment cibler des endroits au Canada où est-ce que c'est possible de faire élire des gens pro-vie pour avoir plus de parlementaires pro-vie. Alors, de voir leur influence sur ce qui se passe au sein du parti, ça peut être un peu décourageant, mettons, pour ceux comme moi qui sont plus de l'aile progressiste, disons, du parti, parce qu'on voit que c'est quasiment pas... C'est quasiment pas... ça reflète pas vraiment le parti en tant que tel, mais bien l'aile très, très, très...
C'est l'aile ancienne de l'Alliance.
C'est ça, puis on a vraiment l'impression de plus en plus que cette aile-là veut absolument être toujours au pouvoir, puis que les progressistes, ben, tu sais, on voit un peu de moins en moins de tolérance pour des idées plus progressistes au sein du parti. Moi, je vois Peter McKay un peu comme notre espoir là-dedans,
Ben, c'est le dernier chef du Parti progressiste conservateur avant la fusion, si je ne me trompe pas, M. McKay.
C'est exact. Mais tu sais, le problème, c'est que le Parti conservateur, ça a été formé. L'idée, c'est une coalition de la droite. Mais il y a une certaine droite qui pense que les gens plus progressistes ne sont pas des vrais conservateurs. Et eux autres, ils pensent qu'on est au parti, qu'on essaie de les ramener vers le centre, qu'on va faire en sorte qu'au final, on est juste un autre parti libéral.
C'est pas ça, justement, que O'Toole, il y a dans son slogan, genre un vrai candidat bleu ou une affaire comme ça, je me souviens plus du slogan exact, là, mais tu sais, c'est vraiment un jab pour dire, genre, moi, je suis un vrai conservateur, mais les autres, non, tu sais.
C'est exactement ça. Lui, c'est le vrai bleu. C'est vraiment écrit de même. Vrai bleu, puis il dit que Peter McKay est un libéral léger. Alors, c'est ça la ligne d'attaque, c'est nous, on est des vrais bleus, pas eux autres, votez pas pour eux. Puis, ça va un peu à l'encontre de l'esprit de la coalition qui est on est tous de droite, on veut former un gouvernement conservateur. Alors, on se concentre sur ce qui nous unit.
Ça, c'est quand même.
Je vais me permettre une question peut-être plus controversée, t'es pas obligé de répondre. Mais, quand même, t'es une femme et tu t'impliques pour le Parti conservateur. C'est quand même plus rare un petit peu, j'aurais tendance à dire. Mais, est-ce que ça t'inquiète de voir cette mouvance-là? Plus de droite, plus fondamentaliste et anti-avortement, prendre de plus en plus d'espace dans ton parti, est-ce que tu as l'impression que ça devient de plus en plus inconfortable comme position pour toi? Est-ce que tu as peur de devoir quitter est-ce qu'il y a un seuil critique où tu ne pourras plus t'afficher comme étant conservatrice avec ce parti-là?
Pour l'instant, ça ne me stresse pas plus que ça. Peter McKay, c'est quand même le meneur de cette course-là. Il était pour perdre. C'est improbable, mais on le sait jamais. C'est sûr qu'il faudrait que je fasse attention parce que moi, je serais pas à l'aise d'être candidate pour un parti qui va clairement aller de l'avant à restreindre le droit à l'avortement. Erin O'Toole trouble avec ses positions à lui. Et ça, il dit juste en anglais, pas en français, parce que c'est toujours comme ça en politique fédérale, on dirait. Mais O'Toole, ce qu'il dit, c'est que lui, il n'imposerait même pas la solidarité ministérielle sur ces enjeux-là. Alors, il laisserait...
un vote libre.
Ouais, il laisserait au cabinet le vote libre là-dessus. Ça va encore plus loin qu'Andrew Scheer. Andrew Scheer avait dit que son cabinet allait voter contre. Alors, tu sais...
Un peu comme Harper, si je ne me trompe pas. Hein?
Un peu comme Harper, mais tu sais, Harper, c'était une autre époque. Je trouve qu'on a passé à autre chose. On est en 2020. Il faut avancer, là, puis... On peut pas continuer ou même aller de reculons sur ces enjeux-là. Puis dans le gouvernement, un peu, c'était quelques dissidents, mais globalement, le cabinet avait voté avec lui. Puis j'ai l'impression quasiment comme si, avec les autres candidats à la chefferie, on voit même un peu plus de lousse à ce niveau-là. Alors, l'idée même qu'un cabinet pourrait... majoritairement voter pour un projet de loi qui restreint l'accès à l'avortement, c'est problématique. Puis même si lui-même, il dit qu'il ne va pas rouvrir le débat personnellement, on voit clairement qu'il va empêcher personne de le faire.
Tu as dit ton rôle dans cette campagne avec McKay plus tôt, Natacha. Maintenant, est-ce que tu peux peut-être nous en parler davantage? Qu'est-ce que tu dois faire de façon tangible?
Bien, ça change au fur et à mesure de la campagne. Au début, c'était de vendre des cartes membres à des gens que je connaissais. J'avais quand même on est deux co-présidents au Québec, des jeunes. Un, c'était le président de l'Association conservatrice à l'Université McGill. Alors lui, c'était vraiment, il recrutait au niveau universitaire dans les associations. Moi, j'ai été impliquée quand même dans la jeunesse de la CAQ un peu. Alors, je connaissais beaucoup de monde de là qui était assez conservateur. Il y en avait même beaucoup qui me disaient qu'ils auraient voulu être conservateurs, mais le côté religieux les intéressait moins. Alors, tu sais, c'était facile de dire « Ah, ben prends ta carte, puis tu pourras voter pour McKay, puis on aurait une option plus progressiste pour aller contre Trudeau, qui passerait mieux au Québec. » Pour ses valeurs personnelles. Alors, j'ai pu quand même recruter du monde à la campagne de cette façon-là, à travers mes différents réseaux. Alors, ça a commencé comme ça, jusqu'à la date limite pour la vente des cartes membres. Ensuite, maintenant, Ben, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a changé pas mal nos plans, mais on organise prochainement un événement Zoom avec quelqu'un qui pour que les gens puissent poser des questions. Sinon, j'en ai fait plein des événements Zoom avec différents groupes au Québec pour différentes causes. Par exemple, on a fait une conférence sur les armes à feu, on a fait des conférences sur le Québec, on a fait des conférences avec les candidats. Alors, et puis toujours avec Peter. Alors, les gens peuvent quand même échanger directement avec lui, c'est intéressant. Alors, mon rôle, c'est vraiment d'aider avec l'organisation de ces choses-là. Puis c'est sûr aussi de s'appeler les membres, puis les contacter, puis voir s'ils ont des questions, s'ils sont prêts à backer Peter ou non. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment ça ce qu'on fait présentement. Puis c'est sûr que des fois, on va aux médias, comme par exemple, récemment, moi, puis... trois collègues, deux qui ont été candidates, puis une qui a été députée, si vous voulez. On est allé aux médias pour, par exemple, parler de nos craintes par rapport à la question de l'avortement avec Erin O'Toole. Alors, des fois, on est en contact avec les médias, mais c'est quand même, c'est notre priorité, c'est vraiment les membres.
Et tu t'es fait accuser d'être libéral après avoir participé à cet article-là. Je me souviens d'avoir vu ça et j'ai trouvé ça hilarant.
Oh, j'adore la vie.
Sans cesse, je me fais dire constamment que je suis une libérale pour ça. c'est quand même drôle parce que, tu sais, moi, à 18 ans, je venais d'avoir mes 18 ans la première fois que j'ai voté pour le Parti conservateur de Stephen Harper. Alors, de me faire dire que je suis libérale, oh, j'ai un peu de misère à croire ça.
Mais... C'est pincement à toutes les fois, ça.
Ah, ça doit être... Non, c'est pas... Je partage ce malaise-là un peu. C'est pas évident de se faire traiter de ci, de ça, alors qu'on ne l'est clairement pas. Je m'excuse parce que tu l'as mentionné, donc je me permets la question. As-tu déjà songé à voter un autre parti que la coalition Avenir Québec au niveau provincial?
Au niveau provincial, honnêtement, je n'étais pas très impliquée. À mes 18 ans, je suis allée à Ottawa, puis j'ai commencé à travailler en politique fédérale. Alors, j'étais vraiment investie au Parti conservateur au point où que la politique provinciale, je suivais ça par intérêt, mais je n'étais pas impliquée.
Oh oui, okay.
C'est quand je suis revenue pour mes études que là, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je milite à quelque part, puis... Je connaissais du monde du Parti conservateur qui était à la CAQ, qui m'ont dit bien tant. Puis j'ai
mis. Le Parti conservateur du Québec n'était pas une option.
Oh mon Dieu, non.
Bon, ouais. On n'est pas gentil, on frappe sur quelqu'un qui est déjà à terre.
Ouais, non, c'est ça, quand même un minimum de respect.
C'est facile.
OK, d'accord. Puis.
Le PPC au provincial. C'est l'équivalent en provincial du PPC, je pense.
Ouais, on peut voir ça de même, dans le fond. Puis, OK, ben ça, c'est quand même intéressant. Donc, caquiste et conservatrice. Donc, c'est quand même au final, là, c'est un mix qui se mélange bien. Ça fait un bon gâteau au chocolat, si je peux le dire comme ça. Maintenant, toi, mettons, pour ta carrière personnelle, à l'heure où tu l'es présentement, advenant, mettons, bon, mais qui remporte cette superbe course, est-ce que tu t'attends, toi, d'avoir peut-être un rôle plus attrayant, voire payant, en temps et lieu, avec le Parti conservateur de M. McKay?
Si McKay gagne la course?
Oui, exact.
Ben, c'est sûr que même avant, j'ai toujours été plus impliquée au Parti conservateur. Donc, c'est un peu... c'est plus naturel pour moi de m'impliquer à ce niveau-là qu'à la CAQ, bien que j'aime bien la CAQ. Puis le monde que j'ai rencontré là sont super. Mais c'est sûr que mon premier parti, on peut le dire de même, c'est le Parti conservateur. En même temps, je calcule pas vraiment les affaires de cette façon-là. Puis je vais un peu avec les opportunités qui passent, puis tu sais, pas plus que ça pour une chose ou une autre.
tu comptes peut-être te remettre les pieds dans la grande piscine de candidats, j'imagine?
Peut-être. Tu sais, je dis pas non, je dis pas oui. Mm. C'est sûr que j'aimerais la prochaine fois, si je me présente, me présenter avec un endroit que je connais un peu mieux. Moi, je venais pas de la Gaspésie, alors il fallait que j'apprenne en même temps que je faisais campagne. C'est quand même un gros défi. Ah, surtout qu'ils ont vraiment des enjeux particuliers dans la région, alors c'était vraiment beaucoup absorbé en très peu de temps. J'aimerais mieux, si je n'étais pas me présenter à quelque part que je connais mieux. Mais en ce moment, je ne suis pas en train de calculer à l'heure actuelle de voir où est-ce que je me présenterais ou rien de même.
Non, c'est sûr.
Là, j'ai une question, par contre. Parce que tu sembles à fonder beaucoup d'espoir sur Peter McKay, pour le Québec notamment. Mais Peter McKay au Québec, il me semble que, dernière nouvelle, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne parlait pas trop français. Puis que c'était pas le gars qui était le plus connu au Québec non plus. Il y a quand même un gros travail de publicité à faire là, pour le vendre aux Québécois.
Oui, il y aurait un gros travail à faire, mais j'ai confiance en ses capacités. Je sais qu'il partage nos valeurs. Comme j'ai dit, c'est un progressiste. Il nous comprend. Il ne va pas essayer d'imposer une façon de voir la vie un peu étrange à nous. Puis il parle français. Moi, je parle tout seulement en français à chaque fois que je le vois ou je parle. C'est toujours en français. Puis il y a un accent, mais tu sais, on ne veut pas trop lui en vouloir pour
non,
ça. Non, c'est correct.
Et ça l'aide. Avec. Mon Dieu, comment dire? Au niveau, parce que bon, tant qu'à faire l'éloge de tous les différents peuples composants du Canada, je me permettrai une parenthèse sur les Autochtones. Est-ce qu'il y a des choses que M. McKay a amenées dans sa campagne jusqu'à présent par rapport aux Autochtones?
Ça serait intéressant. C'est sûr que aussi dans une course à la chefferie, on ne développe pas nécessairement les détails politiques, surtout sur des enjeux assez... qui peuvent être assez techniques, là, comme la loi sur les Indiens, c'est quand même un dossier très lourd pour approcher de façon intelligente, pas trop... ça peut être quelque chose sur laquelle on va... Une politique sur laquelle on peut développer plus tard. Mais c'est sûr que ça a toujours été quelqu'un de très ouvert et... par exemple, dans le passé, je trouve que Peter McKay a toujours été quelqu'un qui était un très bon défenseur des droits des victimes. Alors, quand je pense à des nations autochtones ou qu'on voit, par exemple, toutes ces histoires d'horreur sur les meurtres puis les femmes disparues, je trouve que Peter McKay a quand même un très bon... il a quand même... était un bon défenseur des droits des victimes dans le passé, puis je pense qu'il pourrait encore une fois l'être à l'avenir. Et on pourrait surtout s'arrêter sur les enjeux touchant particulièrement les Autochtones.
Mm-hmm. Moi, je me pose une question plus spécifique, là. Mais dans le fond, y a-t-il un désir de revenir un petit peu à l'époque de Mulroney et de faire une réforme constitutionnelle au sein du Parti conservateur, ou c'est vraiment... c'est pas du tout dans les intérêts du parti en ce moment?
C'est sûr que pour quelqu'un comme moi, ça serait l'objectif. Puis beaucoup de Québécois, je pense, parlent toujours de l'époque Mulroney, puis c'est un peu ce qu'on espère revoir. C'est sûr que de mon point de vue, ce qui s'est passé en 82, c'est impardonnable. Ce que le fédéral avait fait, le gouvernement de Trudeau à l'époque. Je pense que c'est un mal qui pourrait toujours être réglé à l'avenir. Justin Trudeau, je me rappelle, je pense que c'était en 2015, dans un des débats, il disait que c'est une affaire du passé, c'est, on passe à autre chose. C'est comme si c'était...
C'est une... comme si c'était réglé, ça.
Mais on vit encore les impacts de ça aujourd'hui au Québec. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a deux peuples fondateurs du Canada qui n'ont jamais signé cette constitution-là tout en étant assujettis à la constitution. C'est le Québec, mais aussi les nations autochtones. Fait que ça serait intéressant de voir si on peut renégocier.
Avec la fameuse loi sur les Indiens qui est enchâssée dans la constitution, en plus.
Voilà. Alors, ça serait intéressant de voir si on peut renégocier la constitution en s'assurant qu'il y a tous ces peuples-là. Ces peuples-là soit représenté. On ne peut pas juste avoir le fédéral qui décide avec l'appui des provinces anglophones.
Non, c'est clair. Ok, très intéressant. Ça, c'est quand même un très bon point. Je pense que vous êtes en mesure d'en être parti dans cette direction-là, vous allez gagner beaucoup, beaucoup.
Ça va être dangereux pour le bloc, ça, par contre.
Ça va être dangereux pour le bloc, mais... Bon, laissons le côté partisan de la chose à côté.
Non, mais dans le sens, tu sais, il faut quand même le prendre en compte.
Non, c'est
si que le Parti conservateur réussit à faire ça, ça va être dangereux pour le bloc. Et ça va manger des plates-bandes même de certains territoires plus... des territoires où le vote est divisé. Des territoires libéraux pourraient tomber aux conservateurs avec une unification du vote aux conservateurs. Je veux dire, c'est... Ça dépend. Par contre, peut-être que l'Alberta n'aimerait pas ça parce qu'il se sentirait encore une fois que le parti est trop pour le Québec et tout ça.
Ouais, c'est ça.
Mais
c'est
en même temps, je trouve que c'est une erreur qu'on fait, c'est de mettre un peu le Québec contre l'Alberta. Alors qu'en réalité, les deux provinces veulent la même chose, c'est plus d'autonomie, plus de pouvoir. Alors, c'est en décentralisant le pouvoir du fédéral qu'on pourrait finir par tous s'entendre là-dessus. C'est sûr qu'eux autres, ils vont nous ramener la péréquation, mais ça vaut la peine de les rappeler que la péréquation, c'est dans une constitution que nous, on n'a jamais signée.
Il y a ça. Puis en plus de ça, c'est pas comme si on finançait pas les sables bitumineux ou le montant de subvention par année qu'ils reçoivent.
c'est pas un vrai enjeu. Fait à part ça, là, en réalité... le Québec, l'Alberta, on veut plus d'autonomie, on pourrait essayer de travailler ensemble là-dessus.
Mm-hmm.
Parce qu'en se déchirant des provinces, ben, ça rend le fédéral plus fort.
Mm. Ben écoute, c'est pas que je suis en désaccord, mais c'est juste que moi, je me souviens qu'à toutes les fois qu'il y a eu des négociations, quoi que ce soit, le Québec arrive avec un bloc de provinces, puis une après les autres, il choke tout, puis le Québec, ça ramasse tout seul avec une ou deux provinces, puis finit par faire de la merde. Et la dernière négociation pour les transferts fédéraux en santé. Ah, le Québec arrive avec un bloc unifié. Ah, on va commencer à négocier à pièces, province par province, ce qui s'est jamais fait avant. Tombe tout comme un château de cartes. On se ramasse à tout en avoir moins pour notre argent que ce qu'on aurait eu si on a négocié ensemble. Après ça, la Constitution de 82 avec l'Alberta, le Québec, puis les provinces de l'Atlantique qui étaient unifiées, ça a tout tombé en dedans. Quand ça a été le temps de signer, Québec s'est retrouvé tout seul encore. T'sais, fait, je comprends la logique de faut s'unifier pour être contre Ottawa, mais à toutes les fois qu'on arrive et qu'on fait un front commun, il y a tout le temps les provinces qui finissent par nous lâcher. Fait que ça devient difficile de faire confiance aux autres provinces. Là. Ça devient un peu du chacun pour soi. Là.
Ça, puis ça dépend aussi c'est qui est au pouvoir au fédéral. Y a un gouvernement fédéral que c'est dans leur intérêt que les provinces soient pas unifiées contre lui, ben c'est sûr qu'il y aurait plus de tendance à, par exemple, qu'il y ait des deals qui se fassent même si ça nuit à d'autres provinces comme ce qu'on a vu en 82. Alors que si on a un gouvernement fédéral qui arrive là avec l'intention de donner plus aux provinces, avec je dirais cette bonne foi-là, ça pourrait mieux aller. C'est sûr que là, c'est des suppositions. On ne peut pas prédire l'avenir là-dessus. Mais je dirais qu'il y aurait quand même du potentiel avec un gouvernement fédéral de bonne foi. Ce n'était pas le cas en 82.
Ouais, non, vraiment pas. Là. C'est Pierre-Éliott Trudeau. Y a-tu déjà été de bonne foi, ce gars-là?
On est en droit de ça.
Non, mais tu sais, je veux juste le dire. Je suis peut-être un bloquiste, mais Brian Mulroney est meilleur premier ministre du Canada de l'histoire de loin. Okay? Le gars a suicidé sa carrière politique pour essayer de rentrer le Québec dans la Constitution. Gros respect. Puis en plus, l'accord de libre-échange Canada-États-Unis. Qu'est-ce que tu veux de plus, là, rendu là?
Ouais, puis son leadership sur l'enjeu de l'apartheid à l'international, c'est quelque chose qui est souvent oublié, mais c'est tellement important. En Afrique du Sud, son leadership sur là-dessus, c'est...
Alors, c'était vraiment là, s'il avait pu faire Relac Meach, ça aurait été incroyable. Ça aurait été là, une carrière politique, là, tout le monde aurait fait wow! Brian Mulroney, il aurait été le premier sur la liste de tout le monde.
La première fois que j'ai vécu ailleurs qu'au Québec, j'étais étonnée de voir qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'hostilité envers Mulroney de certains gens, là, c'est comme si c'était vraiment un mauvais premier ministre. Puis ça m'avait comme vraiment. Ça m'avait vraiment étonné parce que ben moi, c'est mon préféré. Puis au Québec,
je pense. Un respect pour lui au Québec, tu sais.
Absolument. Moi, je trouve que c'est. Ben, C'est un peu sa vision du fédéral qui m'a motivé à m'impliquer en politique au Parti conservateur à la base. Alors,
non, mais souvent, ce que je disais, mais Jonathan, il le sait, j'avais déjà dit, c'est que moi, j'étais au Bloc, ben, parce que je suis indépendantiste, mais je suis au Bloc aussi parce que le parti que j'aurais voté pour n'existait plus. Puis j'avais dit c'était le parti à Mulroney. J'ai dit, mais il est mort quand ils ont fait la fusion avec l'Alliance. Mais il y a plein de gens comme moi où l'option n'existe plus vraiment parce qu'ils ne sont pas indépendantistes. C'est des autonomistes, mettons, comme Jérémy Junot, qu'on va essayer de vous avoir les deux sur un ballot de même temps. Jérémy Junot lui a décidé que son autonomisme, il allait essayer de le faire par la gauche avec le NPD. Parce qu'il trouvait que le Parti conservateur, c'était, ben, probablement, c'est pas dans ses valeurs, il est plus progressiste beaucoup. Mais l'autre chose, c'est qu'il disait qu'il sentait pas une ouverture vraiment de ce côté-là, alors qu'au NPD, s'il jouait bien ses cartes, il avait l'impression de pouvoir, avec le traité de Sherbrooke et des choses comme ça, de vraiment pouvoir faire quelque chose. Mais bon, après, moi, je reste sceptique là, sur son entreprise. Là. Mais il y a un électorat pour ça au Québec. Pour le Parti progressiste conservateur à la Mulroney. C'est de voir si M. McKay peut faire ça sans s'aliéner le reste. Mais même à ça, Jonathan, je ne sais pas si tu vas être d'accord, puis Natacha non plus, mais j'ai l'impression qu'un Parti progressiste conservateur aurait du succès aussi en Ontario un peu plus que ce qu'ils ont actuellement. Là, en ce moment, c'est vraiment c'est difficile pour eux en Ontario.
Oui, absolument. Tu sais, ce que ça prenait aux dernières élections, que beaucoup de gens ils disaient ah, on a perdu à cause du Bloc, à cause de l'avortement, à cause des sortes bitumineux, etc. Puis moi, ce que je disais, c'est que en fait, c'est pas le Québec qui nous a fait perdre les élections, c'est le fait qu'on n'était pas capable de gagner le GTA, la grande région de Toronto. Au Québec, nos pertes, on en a eu, mais pas beaucoup. T'sais, on avait 15 députés, là, on est rendu à 10. C'est pas bien, mais c'était pas catastrophique au Québec. C'est vraiment en Ontario là, que il y avait du potentiel, puis on a vraiment, vraiment pas réussi à chercher ces gens-là. Ces gens qui ont voté pour Doug Ford, qui ont voté pour les progressistes conservateurs au provincial, qui ont rejeté l'option fédérale. Alors, il faut avoir une option qui va chercher le Québec, mais aussi l'Ontario, puis les provinces atlantiques. Pour moi, Peter McKay, c'est clair qu'il y a du potentiel dans toutes ces régions-là. Dans l'Ouest canadien, c'est des conservateurs. Qu'on ait un conservateur qui est peut-être un peu plus proche du centre qu'elles sont habituées, c'est quand même un conservateur. Je vois pas pourquoi il devrait pas se rallier derrière ce candidat-là. Alors, il y en a beaucoup dans l'Ouest qui sont pour McKay aussi. C'est quand même pas divisé que ça par région. En Alberta, on voit qu'O'Toole est quand même définitivement plus fort, je pense, de 15 points, disait le sondage de Main Street. Mais sinon, dans la plupart de l'Ouest canadien, c'était assez équilibré. Alors, à mon avis, avec un premier ministre qui a une certaine acceptabilité dans chaque province, bien, ça serait parfait pour le parti. Il faut arrêter d'avoir l'air d'un parti régional. On a trop l'air du parti de l'Ouest canadien de Stephen Harper pour former le gouvernement du Canada, pour être un gouvernement pour toutes les provinces.
Ça, c'est bien dit. Puis, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu lorsque... c'est le sentiment que j'ai plutôt lorsque j'entends M. McKay parler. M. O'Toole est beaucoup plus... Bon, le vrai bleu, justement, dont on parlait plus tôt, là, c'est un discours qui a le mérite d'être plus ou moins, j'allais dire vide, mais c'est pas le bon terme quand même, là, mais un peu moins accrocheur, si je peux le dire, pour des gens qui ont jamais eu un réel intérêt pour le Parti conservateur comme moi, tu sais. Alors que McKay,
il n'a pas le prestige. Plus. Le Parti conservateur n'a pas ce prestige-là au Québec. Non, comparé à l'Ontario, pas l'Ontario, mais comparé à l'Ouest canadien, tu sais, un peu un badge d'honneur dans ces provinces-là. T'es conservateur, c'est des valeurs conservatrices. Au Québec, si t'es conservateur, t'as tendance à le dire du bout des lèvres. Ouais, je suis plus conservateur, mais t'es pas le parti socialement ou économiquement. C'est comme, il y a une espèce de malaise avec le terme conservateur au Québec qui était je pourrais dire...
Ah, ben, il date.
Ouais, il date, mais je veux dire, ce malaise-là, j'ai l'impression que c'est les libéraux qui ont réussi à rentrer dans la tête des gens qu'être conservateur, c'était mal.
Ouais, ben,
C'était foncièrement mal, et au Québec, ça semble avoir fonctionné.
Bon, oui, de la bonne grosse propagande à la libérale, comme d'habitude.
Ce qui m'inquiète pour le Parti conservateur, parce que moi, je suis plus un gars, j'entends plus à gauche que moi, mais moi, je suis plus un gars de droite, social, pas économique. Là. Puis, je regarde ça aller, puis je me dis que le Parti conservateur ressemble étrangement à ce que je dénonce dans la gauche plus radicale, c'est que ça devient une espèce de cercle de pureté idéologique. C'est-à-dire, non, je suis plus conservateur que toi. Non, moi, je suis plus conservateur que toi. Toi, t'es pas un vrai conservateur. Toi, t'es un libéral léger, tu sais. Puis là, t'en as un autre qui surenchérit, Sloan, je pense qu'il s'appelle. Là. Puis lui, c'est ridicule tellement qu'il en met. On dirait qu'il essaie de se prendre pour Donald Trump, ses stéroïdes. Puis là, il y a Madame Leslie, docteur ou avocate, je ne sais plus.
Avocate,
c'est ça. Puis elle essaie comme de se positionner, mais pour le côté chrétien, on dirait. Mais d'une manière plus modérée, elle essaie de faire passer ça avec un petit peu de sauce pour que ça passe plus doucement.
Ouais.
Mais il y a cette espèce de côté-là où est-ce que les conservateurs plus à droite lancent aux conservateurs qui sont pas assez conservateurs à leur goût, ils essaient de les exclure.
Ouais, exactement. Ouais. Ça peut être gagnant dans une course à la chefferie, mais c'est sûr que c'est pas gagnant dans une élection générale. Là, parce que Erin O'Toole sait très bien qu'au premier tour, ça va pas être lui qui sort en premier. C'est Mackay qui va gagner le premier tour. Ça, c'est clair. Il y a personne qui pense le contraire là-dessus, à part si ça raconte des histoires. Mais comme on avait vu avec Maxime Bernier était sorti à la tête de la liste 12 sur 13 tours. Il a fini en premier. Là, au 13e tour, tous les conservateurs sociaux sont allés derrière Andrew Scheer, puis il a fini par gagner la chefferie par comme 2%. Même pas.
Mm-hmm. Puis c'était louche en plus.
Oui, c'est sûr. Alors, ce qu'eux autres ils essaient de faire, c'est qu'ils veulent que ce que le camp d'O'Toole, ce qu'ils espèrent, c'est que Mackay rentre en premier au premier tour, mais pas tout à fait assez, et que les gens qui ont voté pour Lewis ou Sloan votent pour Erin comme deuxième, troisième choix, et qu'il finit par gagner au deuxième tour. Alors, c'est une stratégie. Donc, pour gagner avec une stratégie comme ça, il n'y a pas le choix de se positionner à droite. Même que je pense qu'il se positionne plus à droite qu'il l'a fait historiquement, lui personnellement. Ça n'a pas exactement été toujours quelqu'un qui parlait d'avortement dans la Chambre des communes. C'était vraiment pas de ce genre-là. Il a toujours été pour, par exemple, le mariage gay. Il n'a jamais dit de quoi de très controversé là-dessus. Il a toujours été ouvert à ça. Alors, c'est un peu étonnant de voir à quel point il est prêt à jouer dans ces discours-là juste pour gagner. Surtout que c'est un discours qui est très agressif. Il veut diviser... qui joue un peu sur l'émotion des gens. Tu sais, on voit les vidéos qui sortent, puis c'est toujours avec des titres comme « Justin Trudeau will eat McKay alive », des affaires de même, vraiment, là, pour aller... Ça fait un peu Trump, ça fait politique américaine, fâché, agressif. Alors, sa méthode...
Ça fait populiste.
Ouais, ça fait très populiste. populiste, il ne faut pas toujours le dire de façon péjorative. La CAQ est un gouvernement qui est quand même plus populiste que, par exemple, le PLQ, mais en même temps, sont très bien appréciés de la population ces temps-ci. C'est pas toujours mauvais, mais moi, je dirais que populisme au sens un peu moins attrayant, là, à la Trump, ben, le camp d'O'Toole, il joue là-dessus. Là.
Okay. C'était quand même, ça a quand même sa pertinence d'en parler, juste pour démystifier un peu le mythe de la réalité. Je crois que ça fait pas pire le tour pour ce premier balado en ta compagnie, Natacha. J'espère que tu as apprécié ton expérience.
Ah, ben oui.
Super. Ben écoute, je suis bien content que tu as apprécié. Ça va nous faire plaisir de te lire en temps et lieu et de te rejaser de tout et n'importe quoi, bien évidemment. J'espère, les amis, que vous avez apprécié cet épisode de l'agenda. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook. Vous pouvez également aller voir notre site web, l'agenda.ca. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.